אוקיי. אוקיי, נולי, ברכות השחר, כן? ברכות השחר סום לי ברכות, קונפה למטן. Il y en a 18 en tout. Si on inclut avec cela aussi Netzet Daim et Achar Yatsar, Lokan et Shama, et Birkot HaTorah. Les brachas qu'on fait sur l'étude de la Torah tous les matins. Après qu'on a les trois premières qu'on a déjà étudiées, Netzet Daim, Achar Yatsar et Lokan et Shama, on passe à la première de la suite de la série. Anoten la servi vina la vahin ben yom ben laila. Béni soit tout l'éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui donne au servi, servi c'est le coq, vina, bina, il donne de la compréhension, mais comment on appelle ça, du discernement. Mm-hmm. Bina vient du mot ben, ben qui signifie entre, d'accord, faire discernement entre le jour et la nuit. D'après le Shulchan Aruch, on fait cette bracha quand on entend le coq faire cocorico. Aujourd'hui, à Paris, c'est difficile. Jordan, ça commence à devenir difficile aussi.
Ouais, enfin, il faisait ça.
Hein? Ouais, bien sûr.
Il s'en parlait de coq.
Ouais. Et d'après le sens simple, celui qui dit cette bracha sans entendre le coq, c'est bracha le batala. C'est une bracha en vain. Néanmoins, Rabbeinu Ohari, donc. Autant toute la Kabbalah moderne, il y a 500 ans, il a dit que non. Ces brachot, en fait, elles correspondent à des lumières spirituelles très grandes. C'est d'après le pshat, on peut dire qu'on fait une bracha sur les coqs du monde, d'accord ? Il y a des coqs qui sont encore, on a quelques petites blagues perdues, d'accord, qui font cocorico. Alors, on bénit Hachem pour ces coqs-là. La vraie raison pour laquelle on fait une bracha, d'après la Kabbalah, d'après les secrets de la Torah, ça correspond à des notions spirituelles très hautes. Et là, le Ben Yishraï, il explique un de ces sens-là. Il dit, à servi, c'est la gvoura. Gvoura, qu'est-ce que c'est? C'est les forces de rigueur. Il y a 10 voies de conduite d'Hachem. Une partie d'entre elles sont dans le chesed, correspond à la miséricorde, donc le côté droit, on appelle cela. Et le côté gauche, qui correspond au gvoura, signifie une force de rigueur, la rigueur céleste. Ce qui se traduit chez nous dans le monde d'habitude par le mal. La rigueur céleste, c'est la justice. La justice, elle est là pour faire justice. Elle est là pour faire le contraire que le chesed. Le chesed, il donne gratuitement. Le reste, c'est la bienveillance, d'accord. Quelqu'un, on donne bien que la personne ne mérite pas. C'est le mérite, c'est la justice. Or, qui est méritant par rapport à Hachem? Pour être méritant d'après la justice céleste, il faut être super, super grand tzaddik. On n'est pas méritant. On soit tout bechesed. Donc, toute notre direction de travail dans la vie, elle est de minimiser l'influence de la gvoura, de la rigueur céleste. Au contraire, d'augmenter celle du chesed, du côté de la bienveillance. Alors c'est quoi Anoten la servi? Qui donne servi, c'est donc un nom qu'on donne à la gvoura, aux forces de rigueur céleste. Anoten bina. Bina, c'est aussi une des dix voies de conduite céleste. En haut, on a chorma, bina et da'at, d'accord? Ou keter, chorma et bina, c'est pas comment on compte. Bina, c'est une voie, c'est une voie céleste qui est très très haute, qui est pleine de lumière. Et dès minuit, elle commence à éclairer et elle met une lumière qui adoucit la gvoura. Je parle de notions mystiques, mais moi-même je suis un nul là-dedans, mais bon, je vous dis ce que dit le Ben Yishraï. La journée est séparée en deux grandes parties. Depuis midi jusqu'à minuit, on est dans la gvoura, du côté féminin. Féminin, la femme, elle est gvoura. L'homme, il est chesed. C'est pas que l'homme, il est bon, la femme, elle est rigoureuse. On appelle ça chesed, c'est émetteur d'un flux, et gvoura, c'est récepteur du flux. L'homme, il est émetteur, la femme, elle est récepteur. Elle est aussi, c'est connu dans, chez les animaux, la femelle est plus cruelle que le mâle. Elle doit protéger ses enfants. Elle est Gvoura. La nuit a deux noms, Laïla et Leil. Laïl ou Leil, c'est masculin. Laïla, c'est féminin. On va partager le temps en deux parties. Un côté masculin, une partie masculine, une partie féminine. La partie qui va de midi jusqu'à minuit, c'est la partie féminine. Laïla. C'est la période où il y a plus de force de rigueur. Dès midi, le soleil commence à se coucher. Et à mesure qu'il se couche, les forces de rigueur se renforcent. La nuit, ça devient encore plus fort. Et jusqu'à le moment le plus grand, donc c'est avant minuit, toute cette période-là, les forces de rigueur sont les plus puissantes. Dès minuit, au contraire, commence là la période masculine, l'aile, et il y a une lumière de la bina, c'est une lumière qui est très très haute, qui vient et qui amène un flux de douceur dans la gvoura, un flux de douceur dans la rigueur céleste, qui adoucit la rigueur céleste. Ces périodes-là, c'est la période masculine qui va aller depuis minuit jusqu'à midi. Alors, c'est la bracha qu'on fait. Anotel l'a servi. Hachem, on le bénit, qui donne au servi aux forces de rigueur célestes. Bina, il amène de la bina, il amène un flux de lumière, de chesed, de lumière, de bonté divine. Lavrin ben yom velayla, de façon à faire une différence entre. L'avril ben yom, entre la mida de yom, yom c'est la partie masculine qui va depuis minuit jusqu'à midi, et entre laïla, la partie féminine de rigueur qui va entre midi et minuit. Vous avez compris?
Mais le Shabbat.
Shabbat aussi il y a ça, c'est vrai. Shabbat aussi il y a. Il y a certains secrets de la Kabbalah, paraît-il, qu'on étudie que Shabbat après minuit. C'est très dangereux d'étudier ces choses-là. Alors, on étudie qu'après minuit, la lune de Shabbat. Il faut les deux. Et Shabbat, et après minuit. Le meilleur moment, quand vous serez marié pour faire des enfants, c'est Shabbat, après minuit. C'est ce moment-là où il y a une grande lumière, il y a moins de rigueur céleste. Ok, fantastique. Deuxième bracha.
Pourquoi, quel problème qu'il y ait de la rigueur céleste pour faire des enfants?
Pardon?
Quel est le problème de la rigueur céleste pour faire des enfants? C'est une mise à...
Oui, mais il y a des moments meilleurs, des moments moins bons. Il s'avère que ce moment-là est le meilleur. Toujours bien tous les jours après minuit. Et le mieux, c'est Shabbat après minuit. C'est un moment où il y a dans le ciel une union, justement, entre les forces. Il y a un éclairage très grand. J'imagine, je ne me connais pas, mais on dit qu'il y a un zivogelion, qu'il y a une union entre les voies de conduite d'Hachem. De même que nous on s'unit, même que là-bas s'unit, c'est bien que nous on s'unisse. Et j'imagine savoir une chose de ce type-là, c'est-à-dire que c'est une union entre le côté masculin et féminin, la douceur qui vient et qui adoucit le côté rigoureux. J'imagine que c'est ça sans être.
Dans la Mida, quand on dit Chochma Bina Vadat, on fait référence à la Shrina ou c'est.
Comment c'est marqué là-bas? Je m'y connais pas, mais j'imagine qu'il y a un rapport entre ça et les voies de conduite d'Hachem dont nous sommes en train de parler. D'où j'apprends cela? Parce que c'est marqué Vechonenu Mittecha Chochma Bina Vadat Mittecha, depuis Me'et Kaf Itra Ittecha, c'est depuis, même depuis. Et, c'est le suffixe qui veut dire cela, d'accord? Depuis cela, quel cela? Le kaf. C'est quoi le kaf? Alors, il y a une autre prière qu'on a durant la semaine, celle de Mincha de Shabbat. Là-bas, on dit, Yakiru vanecha veidou, ils sauront tes enfants, c'est nous, Am Israël, veidou, et ils reconnaîtront tes enfants, veidou, ils sauront, kim itecha imnuchatam, que de toi, vienne leur menoucha. Or, c'est marqué que durant Shabbat aussi, il y a une sorte de progression de monde spirituel. On commence très bas le vendredi soir. C'est la malchoute, c'est la plus basse de toutes les voies de conduite d'Hachem. C'est pour cela qu'on dit Benouchouva, Kol Israël, Mekadche Shemecha. À Shachrit et à Moussaf, on dit Benouchouvo, Kol Israël, Mekadche Shemecha. ils se reposeront en lui, lui c'est le Shabbat, Kol, Kol Israël, Kol Shemera, tout Israël, qui sanctifie ton nom. On voit que le soir de Shabbat, on dit Yanuchuva, et le Shabbat matin, on dit Yanuchuvo. Minecha de Shabbat, il y a une marloquette. Il y en a qui disent Yanuchuvam, au pluriel, et nous on dit, comme ça, les poskim aujourd'hui disent, la majorité des grands rabbins à Sfarad, ils disent Yanuchuvo aussi. En tout cas, on est d'accord que le vendredi soir, on dit Yanuchuva. Pourquoi va? Parce qu'on parle maintenant justement de ce moment du Shabbat-là, on est encore dans la voie de conduite la plus basse, qui est la malchoute qui est féminine. D'accord, la malchoute c'est féminin, c'est la réceptrice de tout. On dit que féminin c'est récepteur, c'est réceptrice de tout. Donc Yanuchuva, c'est au féminin. Après, on commence à monter. On arrive à Mincha de Shabbat, qui est l'endroit le plus haut, qui est la plus haute de toutes les voies de conduite, c'est le Keter, la couronne. Alors c'est ça, comme on dit, Yakiru Vanecha Veidaru, ils reconnaîtront tes enfants Veidou, ils seront, Kim Itecha. Il nous attend que de me être kaf, depuis que provient du kaf leur repos. C'est quoi le kaf? Kaf, c'est Keter. Keter, c'est la source de tout. On a parlé hier des quatre mondes, d'accord? Alors, on avait dit qu'il y avait un cinquième au-dessus de tout, c'était la pointe du Yud. Pointe du Yud correspond au Keter. C'est un truc invisible, tellement c'est haut, tellement c'est grand, c'est très petit à nos yeux, mais c'est le plus grand, bien sûr. C'est la source de tout. Alors, quand on dit la prière, quand on fait l'amida, la première bracha, v'chonem mitecha, chorma binavadat, donne-nous de toi, c'est quoi de toi? De kaf, de keter, de la couronne, chorma binavadat. C'est parce que juste après keter, il y a chorma et bina. On passe à deux bracha de Birkat Hashacha. Poker Ivrim, donc on remercie Hachem, Poker Ivrim, qui ouvre les yeux des aveugles. On remercie Hachem que la nuit, quand on dort avec les yeux fermés normalement, on est aveugle, et tout d'un coup le matin, de nouveau, on voit. La discussion, est-ce que les aveugles font cette bracha, oui ou non? Pour le sens simple, non. Comment il peut remercier Hachem qu'on lui ouvre les yeux alors qu'il est aveugle? Néanmoins, comme j'ai expliqué maintenant, Rabban Ohari nous dévoile que. On parle ici de lumière spirituelle, qu'on va faire maintenant de façon remarquable. Il a expliqué maintenant le sens de la bracha de la servir dans la trine ben ouven laïla. Là aussi, on parle de lumière spirituelle. Donc, la halakha, un aveugle peut aussi faire la bracha avec Shemou Malchut, avec le nom de Dieu, sans problème. Le Rav ici, il dit que, bien qu'il y a d'autres rabbanim qui disent, d'autres décisionnaires qui disent qu'on ne fait pas cette bracha, que d'habitude, quand on a un doute à propos d'une bracha, on ne la fait pas. Parce que faire une bracha, c'est qu'une mitzvah des Rabbanan. Alors que prononcer le nom d'Hachem en vain, hein, c'est le troisième des 10 commandements. Dire une bracha le batala, c'est très très grave. Une bracha qu'on ne va pas la faire et on la fait, c'est très grave, c'est le troisième des 10 commandements. Heureusement que d'habitude, on ne le fait jamais exprès. D'accord? Si on fait malgré nous, c'est moins grave. Ça arrive très souvent, enfin, hélas, ça arrive que. Prenons ce nom d'Hachem en vain, on fait une bracha, on s'est trompé, d'accord? On l'a déjà fait, ou on a pensé à quelque chose d'autre, on a fait une autre bracha qu'on n'a absolument rien à voir avec ce qu'on devait faire. Alors c'est moins grave parce que c'est fait de façon involontaire. Néanmoins, il faut faire attention à cela, c'est une segula, dire le nom d'Hachem en vain, c'est une segula pour avoir Zara la Batala. Parce qu'il y a un rapport entre notre bouche spirituelle par laquelle on sort des paroles de Torah, à notre bouche matérielle par laquelle on fait des enfants. Les deux, ce sont des créations vivantes. Alors, il y a un rapport entre les deux. Mila, en valeur numérique, ça vaut 85. P, qui signifie bouche, signifie 85. Mila, c'est l'organe génital, d'accord? P, c'est la bouche. Les deux ont la même valeur numérique, 85. Il y a un rapport entre les deux. Si quelqu'un, il prononce le nom d'Hachem en vain, c'est comme s'il produit la vie en vain. C'est faire Zera la Batala. Zera la Batala signifie faire de la semence en vain. C'est extrêmement le même principe. Ou bien aussi, si déjà on est sur ce sujet-là, ceux qui parlent Lachonara. Lachonara, c'est des paroles mauvaises, d'accord? Alors ça crée aussi maintenant que tu fais Zera la Batala. Tu fais Zera la Batala, il est appelé Ra, il est appelé mauvais. C'est marqué nulle part dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire Zera la Batala. C'est pas marqué. C'est marqué que Yehuda, il avait deux enfants, Er et Onan. Il y a eu trois, d'accord? Mais les deux premiers, Er et Onan. Il faisait Zera le Batala. Et c'est marqué dans la Torah, Vayi Er Ra Bene Hashem. Vayi Onan Ra Bene Hashem. Onan était Ra, était mauvais aux yeux de Hashem. Là, on apprend que celui qui faisait Zera le Batala, il appelait Ra. R, c'est le premier, c'est le capri qui a enseigné ça à son frère, d'accord ? C'est les lettres Ra aussi à l'envers. Donc il y a un rapport entre tout cela. Ça crée les neshamot du R et Vrav, que Dieu nous en protège. R et Vrav, c'est racheter les premières lettres, c'est Ain, Resh aussi, c'est Ra, d'accord ? C'est la même chose aussi. Eux, ils ont fait exprès, effectivement. Donc la Shonara, ça peut créer aussi cela. Donc celui qui retient sa bouche de dire le nom de Dieu en vain, qui se retient de la bouche de dire du Lashon Hara, ça aidera à ne pas avoir Zer Labatala, même involontaire. Absolument, quand on fait une bracha, on crée de la vie, bien sûr. Je ne connais pas, j'avais un copain qui étudiait la Kabbalah, il m'a dit, quand tu fais une bracha, tu fais la même chose qui s'est passée lors de la création du monde. D'accord, le même principe qui a lieu. D'accord. Ok, après on passe à Matir Asurim et Zokef Kefufim. Matir Asurim qui libère les prisonniers, Zokef Kefufim qui redresse les courbés. Il y a un ordre. On va toujours, quand on fait les louanges à Hachem, on va la louange qui est plus faible, la louange qui est plus grande. Tu ne dis pas à quelqu'un, tu es aussi riche que Rothschild. Après, tu dis, t'as plus d'argent, t'as une paye qui est plus grande que la mienne, qui est de 2000 euros par mois. D'accord ? Tu n'es pas quelqu'un, tu veux le louer, là. Au moins, je veux dire, donnez-moi encore. T'es aussi intelligent que mon prof d'école, et t'as aussi et je dirais même que t'es même comme Einstein. D'accord ? Ça va. T'es aussi grand que mon prof d'école. Bon, ça va, c'est un prof de maths, ça va, c'est pas une grosse tête, il sait bien les maths, et t'es presque aussi bien qu'Einstein. Commence par la petite louange, après je passe à la grande. Mais tu fais le contraire. Tu dis, t'es presque comme Einstein, t'es intelligent. Et je crois même que t'es même aussi intelligent que mon prof d'école. Il est taré, le type qui parle comme ça. Tu dis à ta femme, t'es belle comme Miss Jérusalem, après tu lui dis, t'es belle même comme Miss Monde. Ah, elle est contente. Tu lui dis, t'es Miss Monde, après tu sais, je crois que même t'es même. Non, Jérusalem, c'est encore, c'est tout que c'est mieux, parce que c'est mieux que le monde entier. Mais on va dire, tu lui dis, t'es Miss Monde, après tu lui dis, t'es Miss Marseille. Elle dit, qu'est-ce que tu veux, de moi, tu manques de moi. T'es Miss Marseille. Après, ah, t'es même Miss Monde. Ah, là, elle est contente. Ok ? De même, quand on fait les louanges à Hachem, on va passer de la louange qui est plus basse à la louange qui est plus grande. Qu'est-ce qui est plus grand ? Qu'il redresse les courbés ou il libère les prisonniers. Libérer un prisonnier, c'est plus facile. Ça se fait, d'accord ? Le type, au niveau de son physique, il est droit. Il est dans une situation où il faut le libérer. Quelqu'un qui est courbé, c'est beaucoup plus dur. Il faut le redresser lui-même. Donc il y a plus de louange à dire que quelqu'un qu'Hachem redresse les courbés plutôt qu'il libère les prisonniers. C'est pour cela qu'on devra impérativement faire ces brachot dans l'ordre. D'abord, Matir Asurim qui libère les prisonniers, et après Zokef Kefufim qui redresse les courbés. Et si on a fait à l'envers, on s'est trompé, et bien c'est mort. On ne peut pas dire la deuxième bracha. Si quelqu'un il a dit d'abord Zokef Kefufim qui redresse les courbés, il ne peut plus dire après Matir Asurim. C'est bracha le batala. Oui.
Ces prisonniers, on peut essayer de voir d'un côté spirituel. Prisonniers de.
Aussi, j'imagine, mais comme tu verras, c'est clair, comme on a dit maintenant, qu'il y a un sens spirituel à cela, mais aussi au niveau spirituel, tu auras plus de louanges dans celui qui redresse les courbés spirituellement que celui qui libère prisonniers spirituel aussi.
Et quand on dit courbés, c'est courbés à quel niveau ?
Alors, dans le sens matériel, c'est ce que nous connaissons. Spirituel, je l'ignore, mais je peux te dire tout de suite. Matir Asurim, nous avons tous des gens dans nos familles qui sont attrapés par les Serrara. Ils sont dans l'erreur. Il est prisonnier de ses envies pitonnes, hein, il n'est pas prisonnier, il est courbé, il est tordu, je veux dire, c'est un tordu comme ça, d'accord. Alors il faut qu'Hachem, il réveille son corps qu'il fasse chouva. Alors que le type complètement courbé, il était chef de la mafia contre le mouvement anti-religieux, tout ça, il faut vraiment beaucoup de rachamim d'Hachem. T'as un autre, un bon juif, il a un peu d'etc., il va en boîte, etc. Bon, là, il est prisonnier. C'est plus facile. Si dans moi c'est arrivé qu'on a dit dans le désordre, d'abord on a commencé à dire Zokef Kefufim, on dira quand même Matir Asurim, mais sans prononcer le nom d'Hachem, parce que Hachem ou Malchut, Shem, c'est le nom, et Malchut c'est la royauté, c'est-à-dire tous les mots suivants, Atta, Hachem, Elokeinu Melech Haolam, ces cinq mots, on appelle ça Hachem ou Malchut, nom et royauté. Atta, Hachem, Elokeinu Melech Haolam, ça on ne le dira pas, on le pensera. Donc on dira Baruch, on pense Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam et on dit Matir Asurim. Donc on a dit que Baruch Matir Asurim. On pense Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam parce que certains avis disent que la pensée a une valeur, là, comme un, comme une parole. La halakha c'est faux, mais il y a certains avis qui disent cela. Si quelqu'un par exemple, Chas Shalom, il est agonisant, et il doit faire avant de mourir, il faut faire le vidouille. Il faut, c'est le dernier moment où on peut maintenant regretter les péchés qu'on a fait durant la vie. Un vidouille se fait debout avec la parole. Lui, il est couché avec un tuyau dans la bouche. Là. Bon, d'accord, il ne peut rien faire. Alors il peut le faire en pensée. Parce que la pensée a aussi une valeur. Il doit le faire en pensée. S'il est capable, des fois, il est, depuis un mois, il est dans le coma, d'accord. Mais s'il est capable de le faire, c'est bien. Même si dans le coma, c'est bien que quelqu'un à côté de lui le fasse parce qu'ils entendent. Les gens dans le coma, ils entendent. D'accord. Ma belle-mère, quand elle est décédée il y a bientôt 20 ans ou 21 ans, elle était dans le coma. Elle avait un cancer à l'estomac. Elle était dans le coma. Mais avant de mourir, elle a dit à mon beau-père, elle ne parlait pas, mais avec la main, elle a fait comme ça. Elle était dans le coma, d'accord. Elle a fait comme ça avec la main. Genre, plusieurs fois, du genre, fais-moi chemin Israël. Il a fait chemin Israël, d'accord. Donc, bien que les gens soient dans le coma, ils sont là. C'est connu d'ailleurs, des gens qui étaient dans le coma, après ils reviennent des fois, ils disent, j'étais présent, je te voyais, tu étais comme ci, comme ça. Bien que le corps ne voit pas, l'âme voit. Pourquoi je parlais de tout cela, hein? Ah, alors j'ai dit que la parole, la pensée a quand même un certain poids, pas comme la parole, mais quand même un certain poids. Et l'avantage de la pensée, c'est que il n'y a pas d'interdiction de penser le nom d'Hachem. Au contraire, c'est une mitzvah. Tu peux penser Hachem, Hachem, Hachem. Toute la journée, tu ne transgresses pas l'interdit de dire le nom d'Hachem en vain. On a dit que le troisième commandement, c'est tu ne diras pas, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Ça, c'est que si on prononce. Donc, si je ne dois pas faire la bracha Matir Asurim, parce que je me suis trompé, parce que j'ai dit auparavant, je peux au moins penser le nom d'Hachem dans la bracha. Et c'est valable, un peu, quelque part, c'est quand même un peu valable. À part cela, c'est bien toute la journée de penser Yudke Vavke devant soi. Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey, si possible, avec les points du mot Ir'a. Ir'a, c'est la crainte. Donc, sous le Yud, un point, Chérik, I. Sous le Hey, un cheva, deux points, E, français, d'accord. Et sous le Vav, un Kamatz. Yudke, Vavke. Ça donne beaucoup, beaucoup de sainteté à la personne. C'est dans le premier alinéa de Shulchan Aruch, c'est marqué. C'est la Mida Tzadikim, c'est la voie de conduite des Tzadikim. Qu'ils ont, Vishivite Hachem Levitamid, je verrai Hachem devant moi toujours. Comment ils voient Hachem? Ils s'imaginent le nom de Dieu, Yudke Vavke. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de sainteté à la personne, et je vous souhaite bonne chance. On va commencer à rester ici. Baruch Adonai, Yom Vahamé.